Thiot, c'est le médecin qui a prouvé en 1944 que les Juifs étaient solubles dans l'acide sulfurique, disait Pierre Desproges dans son célèbre sketch. Son humour noir rappelle ce que la France a longtemps tenu à distance. Marcel Petiot n'est pas un monstre de fiction, mais un médecin français qui, sous l'occupation, a assassiné des Juifs, fait disparaître leurs corps et récupéré leurs biens dans un climat où leur vie ne valait plus rien. Là où le sketch de Desproges recourt à l'humour noir, L'assassin du genre humain, le nouveau roman de Toby Nathan, revient aux faits à partir d'archives, du procès, des expertises, des trajectoires de victimes, de la zone grise des rabatteurs, en reliant la France de Vichy à nos fractures actuelles. Toby Nathan ne raconte pas seulement les crimes, il montre comment une société fabrique ses monstres. De la France des années 40 à aujourd'hui, le roman fonctionne comme une dystopie en miroir de nos haines contemporaines. Bonjour Toby Nathan.
Bonjour Sigalit.
Je suis très heureuse de vous recevoir pour votre dernier roman, donc L'assassin du genre humain, qui raconte l'histoire du docteur Marcel Petiot. Pouvez-vous nous expliquer un peu qui était Marcel Petiot et en quoi consistaient ses crimes ?
Alors Marcel Petiot, c'est un médecin. C'est un médecin généraliste. Je pense un bon médecin. C'est ça qui est étonnant hein, dans le personnage.
Un vrai médecin.
Un vrai médecin qui a fait une formation assez surprenante parce que c'était après la guerre de 14. Il avait été militaire à la guerre de 14. Il s'est engagé hein, à la guerre de 14. Et puis, il a été réformé pour maladie mentale en 1917. Après ça, il a fait des études de médecine. Mais comme c'était un ancien combattant, il a pu faire ses études de médecine en 3 ans. Et c'est ce qu'on offrait aux anciens combattants pour les recycler, quoi. Il s'est installé à Villeneuve-sur-Yonne. Et là, il a commencé à être un médecin. Il s'est fait remarquer, quoi. Il s'est fait remarquer parce qu'il était moderne, il était jeune. Tout le monde l'aimait et est devenu maire de la ville. Et puis, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il faisait déjà des larcins dans la ville, dont il était maire.
Donc, qu'est-ce qu'il volait ? Qu'est-ce qu'il...
Ben, il volait des petits trucs. D'abord, il était un peu klepto, hein, Petiot. Il volait des bijoux, des choses comme ça, dans les maisons où il était invité comme médecin. Quand il allait voir
chez ses patients, hop, il a...
Chez ses patients, il piquait des trucs. Il a volé de l'huile de bagnole. C'est quand même délirant, quoi. Parce qu'il gagnait très bien sa vie. Hein. Et il a détourné l'électricité de la mairie. Et il a branché les câbles de sa...
Pour pas payer lui l'électricité.
Ouais, pour pas payer l'électricité. C'est la mairie qui payait l'électricité. Et donc là, il s'est fait choper. Et il a été condamné. Hein. Il arrive à Paris en 1936. Et donc là, il a un cabinet, rue Caumartin, à côté de la gare Saint-Lazare. Et là, il se met à dealer, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'à cette époque, pour avoir de la drogue, il n'y avait pas 50 façons.
Quel genre de drogue il prescrivait ?
La morphine.
La morphine, ok.
La morphine qu'il ordonnait comme médicament, quoi. Et donc, il avait une très grosse clientèle de toxicomanes. C'était pour désintoxiquer les gens.
De sevrage.
Voilà, pour le sevrage. Les désintoxiquer lentement, quoi. Et donc, il leur faisait des ordonnances de morphine. Mais il avait au moins une centaine de clientes. C'est des femmes, surtout. Parce qu'à ce moment-là, les gens qui prenaient de la morphine, c'était soit des actrices de théâtre, soit des prostituées, en fait. Et son cabinet n'était pas loin de la rue d'Amsterdam, qui était la rue des prostituées. Il avait une très grosse clientèle et il était pisté par des policiers, et en particulier un policier qui l'avait bien dans le collimateur. Il s'est fait attraper à une ou deux reprises là-dessus. Il était complètement, à un moment donné, il était complètement coincé. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à faire le fou, quoi. Et comme il avait été réformé pour maladie mentale, chaque fois qu'il se faisait attraper, il disait « Mais attention, je ne suis pas responsable, je suis un fou. » Alors donc, il jouait sur les deux tableaux, soit je suis un fou, soit je suis un médecin. Mm-hmm. Donc c'est un cas, quoi, Petiot. Mm-hmm. C'est un cas, en tant que personne, c'est quelqu'un de très spécial. Donc moi, j'ai fouillé cette affaire à partir des archives et aussi en réfléchissant. Et je crois que j'ai compris.
Vous avez travaillé combien de temps sur les archives ?
Bah, ça a duré 2 ans, quoi, à peu près. Hein.
Parce que c'est vrai que l'affaire Petiot a été beaucoup traitée dans des documentaires, des reportages, des livres, des films.
Et plein de bouquins.
Qu'est-ce que vous apportez de nouveau ? Qu'est-ce que vous avez découvert ou compris qu'on n'avait jusque-là pas compris ?
Bon, alors, d'abord, la première chose, c'est qui est ce Petiot ? Mm-hmm. Qui est Marcel Petiot ? Et moi, je suis remonté à sa naissance, en fait. Et là, j'ai découvert, c'était dans les archives, hein, j'ai découvert que sa mère a été hospitalisée en psychiatrie quand il avait 3 ans. Et là, je me suis rendu compte que cette femme était... Alors, je n'ai pas retrouvé son dossier médical. Je l'ai cherché, hein, mais je ne l'ai pas retrouvé. Bon, il doit être quelque part. Hein. Mais j'ai fait une hypothèse, parce que c'était fréquent à cette époque-là, qu'elle faisait un délire mystique, en fait. Et c'est, pour preuve, c'est qu'elle a été hospitalisée très longtemps et qu'en fait, elle a fini par mourir à Sainte-Anne. Mmh. Donc lui, il a perdu sa mère à 3 ans. Et moi, je fais l'hypothèse que cette mère était malade mentale depuis très longtemps, depuis avant son mariage, depuis son adolescence, je crois. Et donc, je fais l'hypothèse qu'elle fait un délire mystique autour de la naissance de cet enfant. C'est-à-dire que déjà, Petiot, en naissant, il rend sa mère folle, quoi. Totalement folle. Donc c'est comme ça que commence la vie de Petiot. Et donc, il est placé chez une nourrice à l'âge de 3 ans.
Docteur Petiot, c'est un serial killer.
C'est un serial killer.
Donc c'est le médecin qui, pendant l'occupation, pendant la guerre, attirait des juifs dans son cabinet en leur faisant croire qu'il allait les faire passer en Argentine, qui les tuait. Alors, vous avez peut-être raconté comment il les tuait, parce qu'il y avait toute une méthodologie Petiot qui les tuait. Qui faisait brûler les corps et qui détruisait les corps avec de la chaux.
Alors, c'est plus compliqué. D'abord parce qu'on ne sait pas exactement. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a jamais avoué la façon dont il tuait les gens. Il a toujours nié avoir tué des gens pour les voler. Il disait qu'il faisait partie d'un groupe de résistants.
Mais il a avoué avoir tué plus de 60 personnes.
63.
63 personnes.
Il a dit qu'il en a tué 63. Donc, en fait, il avait organisé un faux réseau de passeurs, exactement, pour demander à des personnes qui avaient suffisamment d'argent, parce qu'il s'intéressait beaucoup à l'argent, hein, suffisamment d'argent pour payer un passage, alors, il lui disait qu'il pouvait les emmener où il voulait, mais souvent, c'était l'Argentine, en effet. Donc, il avait monté ce réseau où il n'y avait que lui et 3 ou 4 personnes, c'est tout. Hein. Et c'était un réseau de capture, en fait. Et donc, il en a attrapé comme ça. On sait qu'au moins 27 personnes, c'est prouvé.
Prouvé parce qu'on a retrouvé des objets, enfin des effets personnels.
On a retrouvé les valises de ces gens qui d'ailleurs figuraient au moment du procès. On a exposé toutes ces valises. Mm-hmm. C'était très impressionnant. Hein.
La salle du procès avec toutes ces valises.
La salle du procès, mm-hmm. Un mur entier était couvert des valises des victimes de Petiot. Hein.
Mais il y en a probablement beaucoup plus que 27. Et ces personnes, donc en fait, c'était en majorité des juifs qui
c'était surtout des juifs.
Voulaient fuir les rafles.
Les deux tiers de ces 27, c'était des familles juives, et parfois toute la famille. Hein. C'est-à-dire les Kneller, par exemple, c'était le père, la mère et l'enfant.
Oui, il y a
un enfant aussi qui est passé par Petiot. Et donc, les Wolfs dont parle, il y a le monsieur Wolf, sa femme et sa mère.
Ouais, vous consacrez tout un chapitre à la famille Wolf. Pourquoi avoir voulu aller aussi loin dans le détail, dans la manière dont les Wolfs ont été amenés par plusieurs intermédiaires à se retrouver pris au piège et tués par Petiot?
Non, c'est surtout que habituellement, quand on décrit Petiot, on s'intéresse qu'à Petiot et surtout à ses crimes. Moi, je me suis intéressé à Petiot en tant que personnalité, parce que c'est vraiment intriguant, c'est une personne à part. Et je me suis intéressé aussi aux victimes. Et une famille était... On avait beaucoup d'éléments, de traces, quoi. Et donc, j'ai pu reconstituer toute l'histoire des Wolfs, en fait, hein. Et c'est celle qui figure dans le livre. Hein. Et c'est une histoire terrible, parce que c'est une sorte de tragédie presque antique, quoi. C'est-à-dire, on dirait que le destin était qu'ils allaient se faire tuer. Ils essayent à tout prix d'échapper à leur destin. Et là où ils semblaient pouvoir s'échapper, et c'est à cet endroit qu'ils sont capturés, et c'est par Petiot. Et donc, ça fait partie des premières victimes de Petiot.
Et par Petiot, mais avec des intermédiaires, et notamment un personnage clé dans le processus et dans votre ouvrage, c'est la rabatteuse. L'histoire de...
Alors, c'est une des rabatteuses.
Une des rabatteuses, Ariane Kahan.
Alors, elle, oui, c'est une rabatteuse.
Qui est un personnage très dérangeant.
Je me suis beaucoup intéressé à elle. Il y a eu une enquête très, très fouillée sur cette femme. Et il y a une séance au procès, moi, qui m'a beaucoup intrigué. Et c'est ce qui m'a mis sur la piste. Et là, j'ai reconstitué l'histoire. Bon, j'ai un peu imaginé les endroits où il n'y avait pas de documents, quoi. Mais bon, au procès, il s'est passé quelque chose de très étrange. C'est-à-dire que moi, j'ai vu le rapport qui a été fait par la police sur Ariane Kahan. Il n'y a aucun doute que c'est une femme, une aventurière, qui cherche à gagner de l'argent par tous les moyens. Il n'y a aucun doute. La police n'a aucun doute là-dessus. Ils ont fait un rapport très détaillé d'une trentaine de pages que j'ai lu, hein. Et il est évidemment sur la table du juge. Mais le juge la défend.
Alors que le rapport est plutôt à charge.
Il est complètement à charge.
Mais il y a une chose...
Le juge la défend.
...qu'il faut préciser, c'est qu'Ariane Kahan est elle aussi juive.
Ah bah oui.
Juive roumaine. C'est ça qui est troublant.
Elle est juive.
Elle travaille pour Petiot. Enfin, elle fournit les juifs à Petiot.
Elle travaille pour Petiot. Hein.
Elle est elle-même juive. Est-ce qu'elle sait quel va être le destin de ces juifs qu'elle envoie dans la gueule du loup ou
bon,
pas ?
Alors, on ne sait pas, a priori. Moi, je suis persuadé qu'elle sait. Je suis même persuadé qu'elle s'est disputée avec Petiot sur la commission qu'elle devait recevoir.
Prend une
part. La part qu'elle prenait, puisqu'elle lui a ramené au moins 12 victimes. Au moins 12, hein. Enfin, on en connaît 12, mais sans doute il y en avait plus. Donc elle était une de ses rabatteuses principales. Donc je suis certain qu'elle a exigé une commission plus importante que celle qu'il consentait aux autres rabatteurs, quoi. Et donc je pense qu'ils se sont disputés. Et mon hypothèse, c'est que c'est elle qui l'a dénoncé aux Allemands. Bon, c'est ce que je développe dans le livre.
Hein. Il a beaucoup, durant son procès, dit qu'il était fou, qu'il avait des problèmes psychiatriques. Pourtant, les experts...
Pas durant son procès.
Pas durant son procès. Pourtant, les experts psychiatriques, ils disaient qu'il était pervers, amoral, mais responsable, pleinement responsable. Pour vous, est-ce que vous considérez que c'était un fou, que c'était une crapule, ou que c'était aussi un antisémite opportuniste ? Enfin, est-ce qu'il y avait aussi le motif antisémite dans ces crimes ?
Alors, il était... il jouait avec la folie. C'était un expert de la folie. Comme le sont souvent les malades. Hein. C'est-à-dire que il a connu l'argument de la folie déjà quand il était à l'armée.
Et ça a marché.
Et ça a marché. Mmh. Il a vu qu'on pouvait manipuler les psychiatres. Et comme il est beaucoup plus malin que les médecins qui l'ont vu, il les a traînés, il a démontré ce qu'il voulait à ses psychiatres. Donc ça, c'était les psychiatres de l'armée. Donc il a fait l'expérience que la folie, c'est une chose, mais la psychiatrie, c'est autre chose. Et que, comme c'est les psychiatres qui décident de la responsabilité ou pas de quelqu'un qui est soupçonné d'être malade, eh ben, il a appris à manipuler les psychiatres. Et il l'a fait à de très nombreuses reprises dans sa vie. Il l'a fait à ce moment-là, il l'a fait ensuite quand il a eu des ennuis avec la police pour un vol, et puis il l'a fait, il l'a fait au moins 5 ou 6 fois dans sa vie.
Mais là, au procès,
alors quand il arrive au procès,
crimes, il n'utilise pas la folie, il utilise plutôt la résistance.
C'est la résistance.
Que, en fait, il ne tue pas des pauvres victimes juives, mais des collabos.
Oui, alors sa défense, c'est comme ça qu'il a... C'était la seule façon de pouvoir s'en tirer. Bon, il s'en est pas tiré du tout, hein, parce que ça, c'était pas possible, quoi. Il avait un très bon avocat, Maître Floriot, qui était vraiment le ténor de l'époque, qui en plus avait une équipe qu'on appelait les Floriot's Boys, déjà à l'époque, hein, et qui avait une équipe super performante, qui... prenait des tas de renseignements. Aucun avocat travaillait comme ça. Il travaillait à l'américaine, quoi, Floriot. Et donc, il avait réuni des tas d'informations sur tous les témoins pour mettre en accusation les témoins. Et donc, il avait réussi à monter un coup formidable. En tout cas, l'idée était, non, j'ai tué aucun juif, et certainement pas pour de l'argent. Je faisais partie d'un réseau de résistance et les gens que j'ai tués, c'était que des boches et des collabos. C'est ça la défense de Petiot. Et donc, ils ont attaqué tous les témoins et en particulier Erian Kahan. Floriot attaque Erian Kahan en disant, lui, il révèle qu'elle a bossé pour la Gestapo, etc. Et là, elle fait une crise. Hein. Pendant le procès, la scène est... Je la rapporte dans le livre, hein. La scène est assez extraordinaire. Elle fait une crise, attaquée par Floriot, qui, ce qu'il dit est évidemment vrai, parce qu'au moment où elle témoigne au procès, elle est en même temps sous mandat de justice. En fait, elle est poursuivie pour collaboration, en fait. Hein. Et donc, elle témoigne, et le président du jury ignore qu'elle est poursuivie. C'est un truc...
Les deux dossiers ne se croisent pas.
Ils se sont sûrement croisés, mais il a fait semblant de ne pas le savoir.
Le procès Petiot, c'est un peu le premier grand procès sur la Shoah où la presse, l'opinion publique va découvrir en fait la mécanique de l'extermination des Juifs en France, les spoliations, les rafles, parce que les autres grands procès ont eu lieu bien plus tard. Donc c'est avec ce procès qu'on va découvrir
exactement.
Le sort des Juifs
exactement.
En France.
C'est le procès où on parle de la Shoah. On n'en a jamais parlé avant. En fait, en France, on ne parlait pas de la Shoah. Et ensuite, on n'en parlera que très longtemps après. C'est-à-dire, on va attendre 30 ans avant de reparler de la Shoah. Mais là, à ce moment-là, la Shoah est apparue par un truc très singulier. Par Petiot, justement. Parce que on a fait une publicité gigantesque sur l'affaire Petiot. C'était dans tous les journaux, tous les jours... Il y avait le compte-rendu du procès, en fait. Hein. Et donc, dans tous les journaux, hein, il y avait 50 journaux à l'époque. Hein, et tout le monde lisait le journal. Donc, c'était partout. On en parlait tout le temps.
C'est comme ça que les Français ont découvert...
Les Français ont découvert
ce qui s'est passé pour les Juifs.
Que les Juifs étaient poursuivis d'abord.
Traqués
et dévalisés. Dévalisés d'abord par les Allemands, ensuite par la Gestapo française, ensuite par leurs voisins, en fait. Hein. Et donc, tout d'un coup, tout ça, ça ressortait. Et surtout, ils ont commencé à se poser la question, mais mon voisin, là, qui a disparu, c'est peut-être une victime de Petiot. Donc, il y a commencé à y avoir des lettres qui ont été envoyées pour dire mon voisin a disparu. Pendant la guerre, les lettres étaient pour dénoncer les Juifs. Oui. Et là, c'était pour s'inquiéter de la disparition des Juifs. Mais il y en a eu des milliers de lettres comme ça.
Oui, surtout qu'il n'y avait pas que les victimes de Petiot qui disparaissaient.
Ben, bien sûr. Il y a eu des milliers de lettres comme ça. Et j'en ai vu quelques-unes dans les archives. C'est assez étonnant, quoi. Où tu as un voisin qui dit où est passé le juif untel ? Peut-être qu'il a été pris par Petiot. Et à chaque fois, les policiers font des recherches. Et ils découvrent que non, il n'est pas parti par Petiot. Il est parti dans un camp.
À Drancy, et puis direct
Auschwitz. Et donc, tout d'un coup, les Français prennent conscience de tout ce qui s'est passé. Et c'est dans une espèce de grand procès. Il faut dire aussi que ce procès, je commence là-dessus, hein, mon livre, ouais. Ce procès était une sorte de cirque, quoi. Il y avait le Tout Paris, c'était une cohue invraisemblable, la salle était archi-comble, on se battait pour avoir des places, pour être au procès, il y avait les premiers rangs où il y avait les gens importants, quoi.
Et il y avait toute la presse.
Et il y avait toute la presse internationale. Il y avait un monde fou dans ce procès, et donc c'était l'événement, quoi. Et évidemment, tout le monde parlait de ça. Et de quoi on parlait ? On parlait de la disparition des Juifs. Donc c'est grâce à Petiot, ou malgré Petiot, je ne sais pas comment il faut dire, que la Shoah a été mise en avant de la scène. Et ça, c'est étonnant.
En fait, l'opinion publique a découvert la solution finale, la grande histoire par la micro-histoire. C'est comme
exactement.
Si Petiot, c'était la micro-solution finale.
Il a fait...
Parce qu'en plus, la manière dont... tuer les Juifs était quand même, je ne sais pas si vous pouvez l'expliquer plus précisément, il les faisait attendre dans son cabinet, il leur disait que pour passer en Argentine, il fallait être vacciné, il leur injectait un vaccin, qui en fait était un produit mortel, et là, il les faisait entrer dans une petite salle triangulaire.
Ouais.
Où ils ne pouvaient pas en sortir, et il y avait un œilleton,
ouais.
Il les regardait jusqu'à ce qu'ils... trépasse. Et après, comment ça se passait ? Il y avait une trappe où les corps tombaient.
Non.
Non ? Comment il les descendait dans la cave ?
Non, il les descendait. C'est-à-dire que il avait acheté un hôtel particulier, rue Le Sueur, dans le 16e arrondissement. Et dans cet hôtel particulier, qui était une grande maison, quoi, hein, il avait aménagé un espace. Qui était juste au-dessus du garage, en fait. Et c'est là où il y avait cette pièce triangulaire où il tuait ses victimes. Et ensuite, il les sortait de la pièce. Et à côté, il y avait un garage, il y avait un treuil qui lui permettait de monter ses victimes. Et là, il les dépeçait, en fait. Il les mettait en morceaux. Et ensuite, il s'est débarrassé des corps. La plupart, il les a jetés dans la Seine. Parce qu'on a retrouvé toute une série de corps dans la Seine pendant la guerre. Mais il y avait beaucoup de morts pendant la guerre, non identifiés. Mais un certain nombre étaient probablement des victimes de Petiot. On les a reconnus au fait qu'ils avaient une marque sur la cuisse. Parce que quand ils les découpaient, ils plantaient le bistouri dans la cuisse. Quand tu découpes, et c'était le médecin de l'époque, le légiste de l'époque qui s'appelait le docteur Paul, qui a repéré cette marque sur la cuisse en disant c'est probablement un collègue parce que les chirurgiens font ça habituellement quand ils font une autopsie, au moment où ils ont besoin de retourner le corps ou de faire quelque chose, ils plantent le bistouri dans la cuisse. Mmh. Et donc, on a retrouvé des cadavres avec cette marque sur la cuisse. Mmh. Et donc, on s'est dit, c'est un médecin qui a fait ça, mmh. et probablement, c'était Petiot. Et le docteur Paul l'a dit, d'ailleurs, pendant le procès, et là, Petiot a dit, j'étais nul en dissection, j'allais même pas au cours de dissection.
Et dans son garage, les policiers ont découvert un certain nombre de corps qui ne correspondaient peut-être même pas aux victimes de Petiot. Enfin.
Alors ça, c'est un mystère. C'est-à-dire que ce qu'il a dénoncé, ce sont les cadavres, en fait, hein, qu'on a retrouvés. On a pu en reconstituer une dizaine. C'est-à-dire qu'on a trouvé des bras, des troncs, des choses comme ça. On n'a pas retrouvé ni de tête ni de main, hein, parce qu'il ne voulait pas qu'on les reconnaisse. Donc il jetait les têtes et les mains ailleurs, hein, probablement dans la Seine d'ailleurs. Mais on a trouvé des corps, quoi. Mais on a fait des études très, très fouillées, hein. C'est un super boulot de police, hein, qui a été fait. Hein.
Et parce que, contrairement au sketch de Desproges, c'est avec de la chaux qu'il brûlait les corps.
Bon, c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas bien. Ce qu'on sait, c'est que lorsqu'il a voulu se débarrasser des corps qui restaient, il a essayé de les faire disparaître dans la chaux, mais il s'est rendu compte que ça mettait trop de temps. Donc, voyant que là, ça commençait à se resserrer autour de lui et qu'il voulait absolument se débarrasser des corps, donc il les a sortis de la chaux et il les a mis dans la chaudière. Mais il en a mis trop à la fois dans la chaudière. Elle s'est bouchée, la chaudière, et il est sorti une fumée épouvantable. Et c'est comme ça qu'il s'est fait attraper.
Que les pompiers sont arrivés. Hein.
C'est comme ça qu'il s'est fait attraper. Mais au départ, c'était pas sa technique habituelle de se débarrasser des corps. Mais ce que vous soulignez est très juste. C'est que, au fond, c'était une mini-Shoah, en quelque sorte.
Ça fait quand même penser au four crématoire.
Oui, enfin, puisqu'il faisait exactement la même chose que ce que faisaient les Allemands.
Spoliation.
Mais en petit. C'est-à-dire, ce que faisaient les Allemands, c'était d'abord des voleurs. Hein. Les Allemands, c'était avant tout des voleurs. Donc, ils voulaient s'approprier les biens des Juifs. Ensuite, une fois qu'on s'est approprié leurs biens, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Alors, on va les tuer. Mais après, une fois qu'on les a tués, d'abord, il faut les tuer.
Il faut que ce soit efficace.
Il faut que ça soit efficace et pas trop onéreux. Parce que la Shoah, ça a commencé par la Shoah par balle. Et ils ont trouvé que ça coûtait trop cher et que surtout...
C'était pas très propre.
C'est-à-dire que les tueurs, ils en avaient marre de tuer des gens un à un. Et ils faisaient des crises, quoi. Les tueurs eux-mêmes. Donc ils se sont dit, c'est pas une bonne technique. Donc il fallait quelque chose d'aussi efficace et en même temps de moins onéreux, en quelque sorte. Ils trouvent le moyen le plus sûr. Et ensuite, se débarrasser des corps, ils avaient trouvé le moyen le plus simple, c'était de les brûler. Donc Petiot a fait la même chose, en fait. Hein. C'était une mini-Shoah. Mmh. C'était une Shoah personnelle, en quelque sorte. Il attrapait les Juifs, il les dépouillait. Ensuite, il les tuait, et ensuite, il se débarrassait des corps. Mais pour les brûler et la chaux, ça, c'est que à la fin, quand il a voulu effacer ce qu'il a fait, quoi.
On va parler d'un autre personnage important dans votre roman, parce que votre roman, enfin, il y a le personnage de Jade Joselowitch, qui est une jeune doctorante qui fait une enquête sur Petiot. C'est une jeune femme très sensible et pris dans un rapport d'emprise avec son directeur de thèse, Nagral. On la sent hantée par la question juive. Ma question, c'est, Jade, est-ce que c'est vous ?
Jade, c'est moi ?
Oui. Parce qu'elle fait l'enquête que vous dites avoir
fait. Alors, Jade, c'est moi parce qu'elle fait, en effet, ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je suis parti aux archives, j'ai regardé les archives, j'ai lu tout ce qui était paru sur Petiot, j'ai vu les films, les documentaires, etc. Donc c'est ce qu'elle fait aussi. De ce point de vue, oui, elle fait ce que j'ai fait. Mais Jade, c'est pas moi. Hein. Elle est beaucoup plus douée que moi, Jade. elle pige les trucs au quart de poil. Et puis surtout, elle est visionnaire.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'elle a quelque chose qui est assez surprenant. Mais je connais des femmes comme ça. Hein. C'est surtout les femmes qui ont ça. C'est pour ça que ça ne peut pas être moi. C'est qu'elle voit des choses qui vont arriver, quoi. Elle voit avant, parfois juste avant. Et ça, c'est quelque chose, ça existe. Hein. Je connais des femmes comme ça. Hein. Elle voit juste avant les événements qui vont survenir dans l'heure qui suit, quoi. Et donc ça, ça la marque et ça la guide aussi pour son travail. Bon, elle est traitée, on la prend pour une folle. Mais en même temps, comme c'est une intellectuelle de très bon niveau, elle s'en tire par l'intelligence, quoi, en quelque sorte. Donc, c'est pas moi du tout.
Parce que elle s'appelle Jade Joselovitch.
Oui.
Qui veut dire fille de Joseph.
Oui.
Et Joseph, c'est celui qui voit dans les rêves.
Oui, si vous voulez. Si vous voulez. Mais, bon, je sais pas pourquoi j'ai pris ce nom-là. J'aimais bien ce nom-là.
Et c'est un nom juif ashkénaze. En
fait, total ashkénaze.
Elle est liée avec cette ouais, histoire
mais,
juive.
Oui, mais c'est quelqu'un d'assez spécial parce que au départ, elle ne se sent pas juive, hein, du tout.
C'est ça, mais au fur et à mesure, elle va découvrir des choses. Alors, notamment, à travers sa relation avec son professeur, Nagral, elle le voit dans des cercles intellectuels d'admirateurs de Céline.
Oui.
Donc, il y a aussi ce... Vous parlez de ce professeur qui représente un antisémitisme de salon célinien. Pourquoi vous avez voulu remettre Céline dans l'histoire, dans cette histoire?
Alors, parce que moi, j'ai été très frappé de la ressemblance entre Petiot et Céline. D'abord, physiquement, ils se ressemblent. Hein. C'est assez étonnant. Hein. Et ils ont eu un parcours très semblable. Hein.
Oui, vous dites qu'ils ont fait des études de médecine.
Oui, ils ont à peu près à la même époque. Hein. Céline, 3 ans après. Hein. Petiot d'abord, et puis 3 ans après, Céline fait ses études de médecine au même endroit. Peut-être qu'ils se sont rencontrés, d'ailleurs. Hein. Et tous les deux ont quelque chose de qui est étonnamment semblable, c'est leur gouaille, c'est leur façon de parler, c'est leur passion pour le peuple et pour la défense du peuple, en quelque sorte. Et l'un et l'autre sont pareils, hein, de ce point de vue. Et puis, Céline lui-même fait la comparaison entre lui et Petiot. Hein,
Oui, il y a un passage que vous citez.
Oui, il y en a plusieurs. Hein. Ouais. Il y en a plusieurs, j'en ai pris un, mais il y en a plusieurs où il a lui aussi a repéré la ressemblance. Hein. Et sauf que Céline était un antisémite hargneux et très virulent, et même c'était sa marque de fabrique, quoi. C'était son succès aussi, hein. Comme ça.
Disons qu'on a l'impression que Céline était un antisémite écrivain. Là où Céline écrivait et vomissait l'antisémitisme sur le texte, Petiot, lui, c'était un peu Céline en acte, en action.
Bon, enfin, je ne sais pas si Céline s'est mouillée dans l'antisémitisme. Je sais qu'il a dénoncé des gens.
Non, mais il a écrit des pamphlets antisémites.
Oui, oui, mais
alors que Petiot,
est-ce qu'il
lui
a agi ou pas? Et je pense qu'il a agi un peu. C'était un Petiot au petit pied, Céline. Alors que Petiot est allé beaucoup plus loin, et probablement avec la même idéologie derrière. C'est-à-dire qu'il se ressemblait beaucoup de plein de côtés. Parce que Céline, comme Petiot, c'est des bons médecins. C'est tous les deux des bons médecins. Mais on sait que les médecins ont été très actifs durant la Shoah.
Mais
les médecins allemands en particulier.
Ce que Jade, l'étudiante, semble dire, c'est que Petiot évoluait dans un milieu où des intellectuels, des écrivains, pas que Céline, étaient des idéologues. Et que c'est aussi toute cette idéologie qui permettait à des petits d'exister et de passer à l'acte.
Bon, là, je suis pas sûr de, je pourrais pas, je dirais pas les choses comme ça. Je pense que c'est toute la France qui était comme ça. C'était pas seulement les idéologues. Toute la France était comme ça. Il y avait des gens qui résistaient, bien sûr. On résistait parce qu'on avait une autre idéologie. Donc les chrétiens ont résisté parce qu'ils ils se référaient à l'idéologie, à leur croyance, à leur foi. Eux ont résisté, mais les autres n'ont pas résisté. Ceux qui n'avaient pas de foi, qui n'avaient rien d'autre. Les communistes ont résisté, mais sur le tard, à partir de 1942 seulement, parce qu'ils avaient une autre foi. Mais quelqu'un qui n'avait pas de foi, qui n'avait pas d'accroche idéologique, eh ben, il se laissait emporter par la masse, quoi. Et la masse, c'était l'idéologie officielle. Et l'idéologie officielle, c'est sûr que Céline a contribué à la fabriquer, mais contribué très activement à la fabriquer. Donc, oui, Céline est un personnage très important dans la construction de l'antisémitisme. Mais est-ce que Petiot était un antisémite? Pas plus que ça. Pas plus que n'importe qui était en dehors des idéologies officielles en France. Il était dans cet antisémitisme d'atmosphère, comme on dit aujourd'hui. Il en a profité, il a utilisé tout ça pour capturer des juifs riches. Il n'a jamais rien fait aux juifs pauvres. Hein.
Oui, c'est l'appât du gain.
C'est l'argent qui l'intéresse.
C'est l'argent qui reste le moteur.
Moi, je suis persuadé que que cette révolte contre le monde ambiant et en particulier contre la nomenclature, quoi, les gens en place, et ça, c'est ça son moteur. Mmh. Et c'est pas les juifs. C'est pas particulièrement les juifs. Bon, il en a après les juifs aussi, hein, mais c'est pas sa passion. Céline avait une passion antisémite. C'est pas du tout le cas de Petiot. Hein.
Vous montrez aussi que Jade, l'étudiante, elle se trouve un peu en prise avec deux formes d'antisémitisme. Donc l'antisémitisme de salon littéraire de son prof, voilà, qui fait partie d'un club célinien.
C'est un dandy antisémite.
Un dandy antisémite et celui de l'université quand elle va à la fac, où il y a les drapeaux palestiniens, les kéfiers, où elle se fait invectiver. Il y a plusieurs scènes comme ça. On la sent prise en étau entre ce vieil antisémitisme et ce nouvel antisémitisme actuel. Pourquoi vous choisissez de la mettre à ce point-là, au cœur de la question juive, du vieil antisémitisme et de l'antisémitisme contemporain?
Non, parce que je pense profondément, en fait, c'est le clou du livre. Hein. C'est-à-dire qu'on suit l'affaire Petiot, on est complètement pris par l'affaire Petiot, c'est Jade qui nous prend par la main pour nous guider dans la découverte de l'affaire Petiot, et on oublie qu'elle aussi est concernée. Et puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'elle aussi est victime de cet antisémitisme. Elle est à la fac, elle est à Sciences Po, au moment où il y a toutes ces manifestations antisémites.
C'est ça, et elle se fait interpeller, elle se fait agresser verbalement.
Elle se fait agresser. On la désigne comme juive, alors qu'elle-même ne se sent pas juive, puisqu'elle n'est qu'un demi-juive en plus. Et elle n'a pas du tout grandi là-dedans, quoi.
Non, mais elle s'appelle Jade Joselovitch.
Elle a un nom juif qui la désigne, quoi. En tout cas, elle est prise par ça. Et puis, au fur et à mesure, ses visions, qui s'appliquaient surtout à l'affaire Petiot, se déplacent. Et elle commence à voir des choses qui vont se passer en France, et des choses antisémites en France. Et c'est là, elle avait un concept, en fait, pour rendre compte de l'affaire Petiot. Son concept, c'était le sociographe. Elle dit, Petiot est un sociographe, comme on dit d'un sismographe, celui qui mesure les séismes des volcans, cet appareil qui mesure le séisme des volcans. Et bien Petiot, c'est comme ça. C'est aussi une sorte d'appareil qui mesure les séismes d'une société. Donc c'est un sociographe. Elle fait toute sa thèse là-dessus. Et puis elle se rend compte à la fin que c'est elle qui est sociographe, que c'est elle qui est sensible aux séismes qui sont en train de bouleverser la société française, celle la nôtre, celle où elle vit. En fait, c'est le clou du livre.
Pour en revenir à Jade, à cette doctorante, est-ce que des petiots pourraient exister aujourd'hui en France sous d'autres formes? Est-ce que l'idéologie, l'antisémitisme d'atmosphère, comme on dit, pourrait produire de nouveau des criminels ou pourrait faire que les Juifs soient à nouveau une proie?
Les Juifs sont une proie aujourd'hui. Ça a commencé avant. Je pense que le gang des barbares, par exemple, où c'est des gens qui sont des demeurés, en fait, sont pris par une sorte d'ambiance. Et ce qui arrive à Ilan Halimi, c'est un peu la même chose. Sauf que c'est pas des génies du crime comme l'a été Petiot, quoi. Et donc il y a une combinaison nécessaire entre une ambiance et un personnage. Je pense que notre pays aujourd'hui n'est pas dans un état de déréliction. Bon, il y a plein de choses qui vont pas, je ne nie pas. Mais ce n'est pas encore une déréliction dans l'état où le pays est en train de disparaître, quoi. La France, pendant l'occupation, était en train d'être diluée. La France, si ça continuait encore un ou deux ans, il n'existait plus de France. Si l'Allemagne avait tenu plus longtemps, la France en tant qu'entité allait disparaître, comme l'Union soviétique a disparu.
Donc ce que vous nous dites, c'est qu'on n'en est encore pas là.
On n'en est pas là.
Encore,
je ne vois pas la naissance d'un personnage de type Petiot aujourd'hui.
Et les terroristes qui tirent sur des juifs, est-ce que ça pourrait être du même ressort, c'est-à-dire une ambiance, une idéologie d'ambiance et...
L'ambiance est la même. L'ambiance est la même. Elle est très inquiétante. Parce que...
Ce qui s'est passé à Sydney, par exemple. Ça pourrait être du même ressort?
C'est-à-dire, l'ambiance, c'est la même chose. C'est-à-dire que on a une sorte de consensus populaire non dit selon lequel les Juifs sont coupables. Ils sont coupables de quoi? On ne sait pas très bien, mais ils sont coupables. Donc après, s'il y a quelqu'un qui se sent autorisé par une foi particulière, il peut passer à l'acte. Tout est en place pour qu'il le fasse. Mais ce n'est pas comme ça que naît un tueur en série exceptionnel comme l'a été Petiot. Il faut quelque chose de plus. Il faut qu'il y ait... Parce que c'est comme le président de la République. Je veux dire, Petiot, c'est le président de la République à l'envers. C'est le négatif du président de la République. C'est le président de la République qui n'existe plus. C'est le président en négatif. C'est ça, Petiot. D'accord. C'est beaucoup plus important qu'un tueur. C'est un homme politique, Petiot. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il voulait être.
Oui, il a été maire.
Il a été maire, il a été conseiller général. Et son rêve, c'était de devenir un homme politique important. Et au fond, il l'a été, d'une certaine manière. Puisque une partie de la politique du pays, il l'a incarnée, en quelque sorte. Mais en négatif. Et ça ne m'étonne pas de lui.
Pourquoi vous avez intitulé votre roman « L'assassin du genre humain » ?
Pour deux raisons. Vous m'attrapez là, pile où, là où je voulais aller. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un jeu de mots là-dedans. Parce que l'assassin du genre humain, c'est un mot d'argot pour dire le médecin, en fait. Et moi, quand j'étais jeune, on disait, un médecin, on le désignait comme l'assassin du genre humain. Parce qu'on savait que les médecins, ils peuvent vous tuer, quoi. Donc c'est l'assassin du genre humain. Et comme on disait aussi la sangsue, pour dire un médecin, on disait une sangsue. Je vais consulter une sangsue, on disait. Parce qu'il vous pique votre sang. Et qu'en plus, il vous pique votre fric, quoi. Donc c'est une sangsue. Ou c'est un assassin du genre humain. C'est un mot d'argot. Mais c'est aussi un mot qui a été utilisé bien longtemps avant pour désigner le diable, en fait. c'est-à-dire la puissance du négatif, en fait. Et c'est un peu ce mariage entre ces deux concepts que j'ai condensé, en fait, dans L'Assassin du genre humain. C'est un médecin diabolique, quoi. D'ailleurs, on l'appelait le docteur Satan, hein.
Votre roman se termine sur vous décrivez Jade en disant que c'est une sociographe, comme justement, et vous écrivez cette phrase « Il n'existe pas de passé, pas de présent non plus, toute pensée est une prédiction annonçant ce qui est sur le point d'arriver. » De quoi a-t-elle peur? Qu'est-ce qui va arriver en France? Est-ce que la présence juive est en danger en France?
Alors, d'abord, je parle de la pensée, hein. C'est-à-dire quand on pense, ou même quand on parle, on pense qu'on décrit quelque chose d'actuel ou quelque chose qui s'est passé, mais en fait, c'est faux. Si tout qu'on pense, on est en train de penser à ce qui va arriver. Donc, chaque pensée est une sorte de prédiction de ce qui va arriver. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, à votre question, est-ce que la présence juive est en danger en France ? Il n'y a pas besoin d'être grand clair pour dire oui. C'est évident. C'est évident qu'il y a une question sur la présence juive en France, quoi. Et qu'on se sent en danger tous les jours. Est-ce que, de ce fait-là, on peut prédire à une disparition des Juifs de France? Je ne suis pas certain de ça.
Vous dites que Jade se demande si sa thèse n'est pas le signe avant-coureur de la 15e expulsion des Juifs de France.
Oui, parce que la 14e, c'est celle pendant la guerre. C'est une sorte, c'est pas une expulsion, mais c'est le pays qui vomit ses Juifs. Il a vomi ses Juifs. Il n'en voulait plus, quoi. Il les détestait. Et il vomissait ses Juifs. Donc, si on était juif à l'époque, on avait envie d'une chose, c'est de foutre le camp. Et là, peut-être qu'il y a une 15e expulsion qui se dessine. Mais je dis aussi dans le livre, et ça j'en suis persuadé, que les Juifs font partie de la France. Et ça depuis le début de la France. C'est-à-dire que, moi je regarde les langues. Hein. La France, c'est des langues. Donc vous avez le basque, un endroit, vous avez l'anglo-normand, un autre endroit, vous avez le franc, qui était de l'allemand, en fait. Hein. Vous avez le latin, avec... Et puis vous aviez l'hébreu. Et c'est toutes les langues qui ont constitué la France. Ça fait partie du terreau de la France. Donc, si les Juifs sont expulsés pour une 15e fois en France, ben, ils reviendront. C'est ce que je pense, puisqu'ils font
ils partie... Ils reviennent toujours.
Ils font partie du terreau.
Ils font partie du terreau.
Ouais, c'est ce que je pense. Maintenant... C'est pas de notre vie à nous, hein. Ce sera dans un avenir, s'il y en a un.
En tous les cas, un livre à lire absolument. Toby Nathan, L'Assassin du genre humain.
Merci beaucoup.
Merci Toby.
Merci.